Dans un premier temps, nous allons parler aujourd'hui du monothélisme. Dans un premier temps, j'ai pensé passer directement du règne de Saint Grégoire, qui fut pape de 590 à 604, au drame de 1054, celui du schisme entre l'Orient et l'Occident, schisme d'où subissons encore les désastreuses conséquences, car il a affaibli la chrétienté au moment où l'athéisme prenait tant de vigueur. Toutefois, à la suite de circonstances fortuites, j'ai été amené à ouvrir un livre, L'Orient chrétien, un ouvrage d'un millier de pages, écrit par Mgr Lagier au lendemain de la Première Guerre mondiale. L'imprimatur date de 1935. Je me suis trouvé fasciné par la découverte des événements de ces 4 siècles qui se sont écoulés entre l'invasion de l'islam, la relative décadence de Constantinople et le retour de Rome. En 600, Rome n'était qu'une petite ville de province perdue au milieu de royaumes barbares qui s'entre-déchiraient, alors que Constantinople était dans tout son éclat. Il n'est que de citer l'église Sainte-Sophie qui provoque toujours l'admiration des visiteurs. En 1050, Rome a de nouveau une cour et plusieurs villes impériales commencent à renaître. L'empereur d'Orient a perdu plus de la moitié de ses territoires en Asie mineure, la totalité de ses territoires africains, alors que l'Empire d'Occident s'est étendu en territoires germains et scandinaves. Les croisades vont prouver que les deux puissances sont pour le moins comparables. Toutefois, l'Empire d'Orient a su étendre son influence sur le monde slave. Si Constantinople s'estimait la deuxième Rome, Kiev puis Moscou finiront par se proclamer la troisième. Constantinople aura réussi à rester l'avant-garde de la chrétienté contre les musulmans jusqu'à la fin du XVe siècle. On ne saurait lui en être trop reconnaissant. J'ai donc décidé d'explorer ces siècles dont les livres d'histoire m'ont peu parlé malgré leur importance. Les crises de l'arianisme et du nestorianisme avaient quitté leur caractère aigu, mais en laissant des traces profondes. L'arianisme subsistait notamment en Espagne, et il existe encore de nos jours une église nestorienne. Les Coptes sont réputés monophysites, même si j'ai entendu dire que les principales tensions avaient pour cause les difficultés de traduction entre le copte et le grec, activité dans laquelle je n'ai jamais essayé de me livrer. Il faut aussi rappeler que le gouvernement de Constantinople se montrait souvent autoritaire, pour ne pas dire dictatorial, avec pour conséquence une hostilité croissante des populations de l'Égypte et de la Syrie et de la Palestine qui ne parlaient pas la même langue. Cette hostilité a été une des raisons principales de la rapidité de l'invasion musulmane entre 638 et 668. Notons en passant que les philosophes chrétiens de Syrie et de Palestine utilisaient l'écriture dite écriture arabe, ce qui fait croire à plusieurs qu'ils étaient arabes voire musulmans. Lire à ce propos Aristote au Mont-Saint-Michel, livre paru il y a juste quelques années. Du point de vue théologique, il est certain que l'empereur byzantin, héritier de Constantin, pensait avoir un réel pouvoir dans le domaine religieux. Il ne se privait pas d'emprisonner le pape et de torturer les prélats qui n'étaient pas de son avis. Il a fallu beaucoup de courage au père des conciles œcuméniques, ou d'habileté, pour mettre dans le camp de la vérité des prélats qui n'étaient parfois que de simples courtisans. Mais les forces du mal n'ont pas eu le dernier mot, bien que du point de vue du chrétien de base, elles fissent beaucoup de dégâts. Un vaillant patriarche de Constantinople nommé Sergius, un de ceux qui avaient contribué au réveil d'Héraclius, à la reprise de Jérusalem et au retour de la vraie croix, Sergius donc chercha à réconcilier les chrétiens séparés par le concile. Sergius donc chercha à réconcilier les chrétiens séparés par le concile de Chalcédoine, en invitant l'Église à reconnaître que si Jésus-Christ avait bien deux substances, la divine et l'humaine, il n'avait qu'une seule volonté. Le mot volonté se traduit en grec par téléma, d'où le nom de molothélite donné à cette idée. Il rédigea en 633 un acte d'union monothélite en 9 articles. Un théologien chevronné, saint Sophrone, ne tarda pas à réagir, affirmant qu'il ne s'agissait là que d'une autre forme du monophysisme. De fait, le Christ est pleinement homme, Il y a donc une volonté humaine, comme l'indique sa phrase à Gethsémani, « Que votre volonté soit faite et non la mienne ». Il y avait donc une volonté humaine indépendante de celle de Dieu. Sophronie écrivit dans ce sens au pape Honorius, dont on peut dire qu'il chercha à noyer le poisson, peu soucieux de voir l'incendie s'allumer de nouveau. La réaction de Sophronie devant cette dérobade fut une lettre synodale. On était en pleine invasion arabe, 3 ans après la lettre écrite en 637, le calife Oman s'emparait de Jérusalem. Sophronie mourut en 639. Il fut suivi par un théologien confirmé, Maxime le Confesseur, qui poursuivit son action. L'affaire somnola pendant le règne très court de deux papes qui succédaient à Honorius, mais se réveilla avec l'arrivée de Martin Ier, un pape énergique, qui convoqua un concile local, pas un concile œcuménique, pour condamner deux manifestations de cette erreur monothélite que l'empereur d'alors Constantin II avait rédigée sous forme de décret. Furieux, l'empereur fit arrêter le pape pour l'emmener à Constantinople, l'enfermer dans un cachot avant de l'exiler en Crimée en 655. Il y avait alors une grande famine dans cette région et le pape mourut de faim 6 mois plus tard. La colère impériale se déchaîna alors contre Maxime le Confesseur, qui fut arrêté en Italie, exilé au bord de la mer Noire. Maxime, persistant à refuser d'anathémiser le pape Martin comme l'exigeait l'empereur, Sophronie, le concile de Chalcédoine et d'abandonner le monothélisme, se vit arracher la langue et couper la main droite. On le promenait dans les rues en le flagellant, il finit par mourir le 13 août 662. Sa tombe et celle de ses compagnons fut un lieu de pèlerinage. Entre-temps, l'empereur abandonna Constantinople menacé par les Arabes et finit ses jours en Sicile poignardé par un de ses officiers. Son successeur, le successeur de l'empereur Constantin IV, chercha l'apaisement religieux avec Rome. En 680, il convoqua un concile œcuménique, celui-là, à Constantinople, qui anathémisa les partisans du monothélisme, qui datait déjà d'une cinquantaine d'années, et qui devait disparaître après une brève apparition au début du 8e siècle. Ce fut le concile de Nicée-Constantinople, dont nous récitons toujours, que nous récitons toujours à la messe. La paix était revenue dans l'Église jusqu'à la prochaine crise qui devait éclater vers 717, mais à quel prix? Que retenir de cette sombre période qui vit une fois de plus Satan se déchaîner contre l'Église? Le principal outil de la lutte contre l'Église, lutte que le Christ avait prédite à Saint-Pierre, fut la prétention de l'empereur à légiférer sur le plan doctrinal. Prétention encore présente de nos jours de la part de l'État laïque. Certes, Constantin a reçu un immense service au christianisme avec l'édit de Milan, mais ses successeurs, peut-être lui-même, ont vite cru que le pouvoir impérial donnait des droits sur l'enseignement de l'Église. Cette prétention persista le long des siècles, car l'ennemi cherche toujours à se servir du pouvoir. Mais nous le voyons encore aujourd'hui, par exemple, lorsqu'il est demandé à l'école publique de servir la laïcité en affirmant qu'aucune religion ne saurait être en opposition avec les décisions d'une assemblée hétéroclite, assemblée dont les membres n'ont comme légitimité que l'efficacité de discours électoraux souvent incohérents, dont le seul but de prendre le pouvoir. C'est avec de telles assemblées qu'Hitler et Staline ont légitimement, entre guillemets, pris le pouvoir et que le politiquement correct a aujourd'hui la quasi-totalité des moyens officiels de communication. D'une certaine manière, on nous a coupé la langue. C'est le triomphe de Créon sur Antigone. La deuxième leçon, combien triste, est que les persécutions peuvent aussi avoir pour origine les chrétiens eux-mêmes. L'ennemi se sert toujours de l'orgueil avec prédilection. Les luttes entre chrétiens sont presque permanentes, pouvant aller jusqu'aux guerres de religion. Même si on est encore loin des supplices de jadis, on peut regretter que nombre de discussions entre chrétiens, voire entre catholiques, manquent souvent de charité. N'ai-je pas entendu de mes oreilles un pasteur protestant comparer l'Église du XIIIe siècle à l'Empire stalinien et saint Thomas d'Aquin à Gorbatchev? C'était il y a 5 ou 6 mois à peine. La troisième leçon est que même sur le plan matériel, la division entre chrétiens est source de bien des malheurs. Elle fut une des raisons principales du développement si rapide de l'islam, mais elle reste un frein sérieux à l'évangélisation du monde. Le païen à convertir se trouve avoir le choix entre catholique, orthodoxe, luthérien, calviniste, évangéliste, etc. On se croira au salon des vins d'une foire commerciale avec le choix entre Bordeaux, Bourgogne, vin de Loire, etc. On peut ainsi se demander si la mollesse des chrétiens devant l'offensive laïque n'est pas la cause principale des horreurs des régimes totalitaires de ces deux derniers siècles, du génocide vendéen à ceux de Pol Pot, en attendant celle que nous prépare la dictature de l'argent. Le traité de Versailles de 1920 a supprimé l'empire catholique des Habsbourg. Quelques années plus tard, ce fut Hitler et Staline. Si nous savions en tirer la leçon, ne serait-ce qu'en évitant d'anathémiser nos frères qui refusent d'écouter le pape, ou en se détournant ou en en détournant le sens de ses paroles, contentons-nous de prier pour eux et que Notre-Dame pour elle nous aide. Je crois qu'en ce moment, plus que jamais, il faut prier pour l'unité de l'Église, pour que nous retrouvions enfin cette sérénité et que nous puissions, devant tout le monde, proclamer la vérité, la beauté de la vérité.